en transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Christopher Gilles, membre du gouvernement et l'un des acteurs du PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction pour la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à votre invitation et nous allons parler de ce plan. Mais auparavant, actualité oblige, quelle est votre réaction à la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre ?
Trois bonnes nouvelles. Déjà, on a un Premier ministre parce que ça a commencé à faire long. Ça fait des semaines qu'on
51 jours.
Hein. 51 jours. Et ça fait 51 jours qu'on discute avec un gouvernement démissionnaire qui a assuré jusqu'au bout les missions de son gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on était considéré comme une affaire urgente au vu de la situation. Mais de pouvoir discuter maintenant avec un gouvernement de plein exercice qui va permettre d'échanger sur les prochaines lois de finances et sur les prochaines aides pour la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose d'important. Sur Michel Barnier, moi je me satisfais que ce soit quelqu'un de droite. Je ne vais pas le dire trop fort parce que les indépendantistes risquent de se braquer si on le dit que c'est quelqu'un de trop bien. Donc je ne le connais pas personnellement, mais les déclarations sur la Nouvelle-Calédonie, il a l'air de connaître le dossier et c'est quelque chose d'important. Et ensuite, il a été extrêmement valorisé pour son action dans le cadre du Brexit et sa capacité à négocier. Je pense qu'on a aujourd'hui besoin de gens qui sont en capacité de négocier. Et donc, pour la Nouvelle-Calédonie, ça peut être qu'une bonne chose. Mais déjà qu'on ait un gouvernement et des interlocuteurs, ça sera très bien.
Avec cet ennuyeux, parce qu'effectivement, Bruno Le Maire était extrêmement présent. Il y avait des visios régulières avec la Nouvelle-Calédonie. Ça va être dommage peut-être de se priver de Bruno Le Maire. Il va falloir tout recommencer, resensibiliser une nouvelle équipe.
Oui, Bruno Le Maire a été très impliqué. Enfin, je remercie vraiment le ministre de s'être impliqué jusqu'au bout avec son cabinet et avec la mission reconstruction, puisque ça a permis quand même de débloquer plus de 30 milliards pour la Nouvelle-Calédonie en 3 mois, ce qui est considérable, ce qui n'est pas suffisant, mais ce qui est considérable. Néanmoins, on avait besoin d'un gouvernement de plein exercice pour aller plus loin. Donc oui, on regrettera Bruno Le Maire dans son action, mais on ne peut que se satisfaire que des décisions pourront être prises pour la suite.
Alors, le début des violences, le déclenchement des violences insurrectionnelles en Nouvelle-Calédonie, ça fait déjà près de 4 mois, dans quelques jours, dans une semaine, ça fera 4 mois exactement. Quel bilan faites-vous de la situation, notamment peut-être de la situation économique, on en parle beaucoup et vous travaillez beaucoup dessus, elle est vraiment catastrophique, épouvantable, inimaginable?
Oui, je pense qu'on n'aurait pas pu imaginer une telle situation économique. Enfin, c'est plus de 1000 entreprises qui ont été touchées, c'est 180 milliards de dégâts rien que dans le secteur privé, 50 milliards de dégâts dans le secteur public. Oui, c'est cataclysmique. Néanmoins, on est en train de se relever. On est en train de travailler avec les différents acteurs pour mettre en place un certain nombre de dispositifs. Le fonds de solidarité de l'État a été étendu au mois d'août. C'est pas suffisant, il faut qu'il soit étendu jusqu'à la fin de l'année et j'espère que le nouveau gouvernement aura la possibilité justement de prendre cette décision et donner de la visibilité jusqu'à la fin de l'année. Le chômage partiel a été financé jusqu'au mois d'octobre. Là aussi, on souhaite que ça puisse être financé jusqu'à la fin de l'année. Mais face à cette situation qui était difficilement imaginable, il va falloir, et c'est l'idée du plan S2R de sauvegarde, de refondation et de reconstruction, qu'on arrive à travailler tous ensemble. Mais bon, avant de travailler sur ça, il y a des préalables, et le premier des préalables, c'est le retour à la sécurité. Il y a des choses qui s'améliorent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie au point de vue sécuritaire, et le fait qu'il y ait 4000 forces de l'ordre localement contribue très grandement à ça.
Avec des renforts attendus encore.
Avec des renforts encore attendus, mais on voit que c'est pas fini. Enfin, il y a des situations comme la situation du Mont d'Or qui est inacceptable, inimaginable sur un territoire de la République où des milliers de Calédoniens sont pris en otage parce qu'il y a 30 personnes qui bloquent Saint-Louis. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il y a eu différentes interventions encore récemment auprès de l'État pour que ça puisse se débloquer. Ça, c'est un des points importants pour la relance de l'économie ou pour la relance rien que l'aspect sociétal de la Calédonie. On pense tous les jours aux habitants du Mont d'Or qui doivent prendre des navettes. Aujourd'hui, il y a 30 nœuds. C'est une catastrophe pour eux d'aller dans ces conditions. La navette, elle n'arrive pas. Donc ça, il faut que ça soit réglé. C'est un préalable à toute sauvegarde, refondation ou reconstruction.
Concernant justement la situation économique, vous parliez de l'aide de l'État. Elle est là, effectivement. Mais on a un peu de peine à concevoir l'ensemble depuis, depuis le mois de juin où ça a commencé à aider. La, cette semaine, encore une aide complémentaire de 13 milliards de francs hein, sous forme d'une subvention et d'une, d'une avance remboursable. Ça permet le, globalement combien a mis l'État pour l'instant et est-ce que ça permet vraiment de répondre à toutes les urgences ou est-ce que c'est uniquement un pis-aller des petites mesures comme ça, un peu d'argent qui vient au fur et à mesure ?
C'est... Ma réponse ne va pas être politiquement correcte, mais l'État a mis beaucoup. C'est à peu près 40 milliards avec cette subvention supplémentaire. C'est venu pour la dernière subvention pour éviter que le RUAM plonge, pour que Enercal soit en faillite, pour que les collectivités puissent continuer à payer les salaires, que pour financer le chômage partiel et qu'on puisse avoir des milliers de Calédoniens qui touchent une rémunération à la fin du mois, une rémunération qui est néanmoins réduite. Mais cette aide, elle n'est pas suffisante. Et c'est ce qu'on a dit aux différents interlocuteurs qu'on a pu avoir et qu'on a quasiment tous les soirs en visio au niveau de la mission reconstruction. Ce n'est pas suffisant parce que les communes aujourd'hui sont dans une douleur énorme. C'est-à-dire que je vois la maire de Nouméa, le maire de Nimbéa, le maire de Païta. Enfin, toutes les communes aujourd'hui sont en grande difficulté. Le transport en commun ne peut pas reprendre. Le SMTU, SMTI. Les associations aujourd'hui qui constituent un élément important du tissu sociétal de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. Donc vraiment, notre travail est de pouvoir discuter encore avec l'État qui a apporté un soutien exceptionnel, massif, rapide, dans une situation d'affaires courantes du gouvernement. Mais notre combat est encore de discuter avec le nouveau gouvernement pour obtenir des aides complémentaires. Mais des aides complémentaires qui devront être assorties de réformes de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on ne peut pas venir mendier à l'État des choses sans que nous-mêmes nous fassions des efforts ou des réformes qui nous permettent de nous projeter.
Alors, c'est donc dans ce contexte que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a préparé un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. J'imagine que tous les mots ont été pesés. La sauvegarde, parce qu'en fait, c'est ce que vous appelez un plan de survie. Hein.
Oui, c'est exactement ça. C'est du très court terme. C'est comment on finance le chômage partiel, c'est comment on finance des aides aux entreprises complémentaires, c'est comment on accompagne Enercal pour garantir de l'électricité aux Calédoniens. Et ça, c'est conditionné à un certain nombre de mesures. On en a déjà passé certaines, puisqu'il y a eu la réforme de la CLR qui est passée au Congrès. Il y a eu la réforme sur le système électrique également, qui a débloqué un certain nombre de subventions, ainsi que les financements pour le chômage partiel. Et donc la sauvegarde, c'est vraiment du très très court terme pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de tenir et de pouvoir passer cette première étape avant de refonder et reconstruire.
Il y a 11 domaines prioritaires hein, que vous avez identifiés. On va y arriver pour les 11 à sauver les choses
on va y arriver. Enfin, c'est dur. Enfin,
il faut pas. Il n'y a pas de choix en même temps.
Non, il n'y a pas le choix de toute façon. Et vous savez, en fait, on se pose même pas la question de savoir si on va y arriver ou pas. Enfin, on n'a pas le choix que d'y arriver. Ça nécessite des heures de travail avec les différents services, les différents acteurs, les différents acteurs économiques qui sont directement touchés. Et vraiment, je salue les représentants des entreprises qui eux aussi passent beaucoup de temps avec nous à travailler, alors qu'ils doivent faire tourner leur entreprise. Pour certains, ils ont eu leur entreprise brûlée. Donc il y a un travail important qui est fait avec eux, mais on n'a pas le choix que d'avancer, on n'a pas le choix que de réformer la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas le choix de couper dans nos dépenses publiques, parce que faire croire aux Calédoniens que ce qui s'est passé le 13 mai n'aura aucun impact sur la santé, sur le transport, sur notre vie de tous les jours, ça serait leur mentir. Il va y avoir des impacts. Notre rôle au gouvernement est de limiter ces impacts et de mettre en condition pour qu'on puisse repartir correctement par la suite.
Ça, c'est la refondation. C'est et puis ensuite, enfin, avant la reconstruction, qu'est-ce qui est prioritaire ? Ces deux éléments qui sont en fait complémentaires.
Oui, c'est extrêmement complémentaire parce que, enfin, on on peut pas reconstruire la Nouvelle-Calédonie sur des bases qui seraient pas saines. On a, et c'est ce que nous demande l'État, et à juste titre. C'est-à-dire que nous, enfin, l'État veut bien nous aider sur le RUAM, sur Enercal, sur tout un tas de choses, mais le RUAM, Enercal, le système de retraite était déjà en difficulté avant le 13 mai. Ça s'est accentué après le 13. Et donc, il faut qu'on reparte sur des bases solides, et il faut que cette crise serve à quelque chose. Il faut qu'on soit en capacité de dire, ben, on a trop de directions en Nouvelle-Calédonie, on a trop d'établissements publics en Nouvelle-Calédonie, il faut les fusionner, il faut les supprimer. On a un système fiscal qui est beaucoup trop complexe, 140 impôts. 140 impôts pour 270 000 habitants. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple et d'avoir un système fiscal qui permet de développer la Nouvelle-Calédonie, qui soit attractif, où on baisse les impôts pour ceux qui travaillent, qui permettent de rémunérer le travail et les investissements. C'est vraiment tout ça qu'on est en train de repenser, un peu un point zéro du système économique calédonien.
Vous parlez de baisser les impôts, mais en même temps, on va avoir besoin de davantage de moyens. Et je pense que quand l'État nous demande des efforts, c'est aussi des efforts financiers. Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre forcément à une augmentation des prélèvements dans les mois et les années qui viennent?
Augmenter le taux des impôts, c'est peut-être baisser son rendement également. C'est-à-dire que, moi, j'étais en phase avec Bruno Le Maire quand il a annoncé plusieurs fois à Paris et qui dit à l'université d'été du MEDEF, ce qui est bon pour vous est bon pour moi, c'est quand on aide les entreprises, quand on aide à recréer de la dynamique, quand on aide à recréer de la confiance, il y a du rendement fiscal qui se crée parce que la croissance revient. Aujourd'hui, augmenter les impôts et tuer toutes les entreprises, ça n'apporterait rien. On pourrait mettre 100% d'impôts, ça rapporterait zéro. Aujourd'hui, notre objectif, c'est que les entreprises survivent, que les entreprises redémarrent et qu'on puisse recréer de la richesse en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est pas en disant aux entreprises, on va vous mettre des impôts supplémentaires. Donc, oui, il y aura certainement des prélèvements à un moment, peut-être sur une réforme de la TGC qui sera faite, mais il ne faut pas le faire maintenant. Aujourd'hui, c'est stabiliser la situation, sauvegarder les compétences, garantir la sécurité des biens des personnes et redonner confiance aux gens en se projetant sur l'avenir.
La TGC, juste, même si ça semble un détail dans l'ensemble des choses qu'il y a à voir, on n'y touche pas pour l'instant parce que ça fait des années qu'on doit la réformer.
Oui, il y avait un projet de réforme qui était sur le bureau du Congrès. Enfin, la question de la TGC, enfin, c'est des discussions qu'on a avec l'État et pour tout vous dire, c'est une des conditions posées par l'État dans les prochaines aides. Mais comment on fait pour calculer un rendement de la TGC dans la situation actuelle? C'est-à-dire on ne sait pas quelles entreprises vont rester, on ne sait pas qui va rester en Nouvelle-Calédonie. Donc on pourrait faire des calculs extrêmement poussés. Je ne suis pas sûr qu'on arriverait à calculer le rendement. Et je pense que surtout les Calédoniens ont besoin de stabilité pour le moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ce type de réforme trop vite qui viendrait pénaliser le moral des chefs d'entreprise.
Quand vous présentez la reconstruction et la refondation, vous parlez d'une volonté de transformer le modèle économique, social, sociétal et institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que c'est quand même... C'est énorme.
C'est énorme.
On peut arriver à tout faire en même temps? On est obligé de tout faire en même temps? On repart à zéro?
On est obligé de tout faire en même temps parce que tout est lié. En fait, autant la partie sauvegarde, il y a différentes thématiques que vous avez citées. Sur la partie refondation, reconstruction, on est sur quatre modèles. La partie modèle économique et social, le modèle de santé, le modèle institutionnel et le modèle sociétal. Le modèle économique, je vous l'ai dit, il faut simplifier la vie des entrepreneurs calédoniens. Il faut définir des filières d'avenir de long terme. Il faut qu'on soit en capacité de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens en baissant drastiquement les charges sociales pour que ça soit redistribué en augmentation de salaire. La partie modèle de santé, on n'a plus les moyens de financer notre système de santé comme il l'a été. Donc là aussi, il va falloir faire des économies de manière massive, notamment une numérisation de la santé en Nouvelle-Calédonie qui nous fera faire des économies. Le modèle sociétal où on a un travail important, enfin le lien social en Calédonie, il a pris un coup quand même avec ce qui s'est passé. Donc il y a quand même un travail de vivre ensemble qui passe peut-être par l'éducation, par la formation, par d'autres choses qu'il va falloir quand même rebâtir avant qu'on puisse repartir sur des fondations solides. Et enfin, sur la partie institutionnelle, sans préempter et sans rentrer dans des discussions d'un grand accord au niveau institutionnel, mais on a trop de directions, on a trop d'établissements publics, on a un millefeuille administratif où plus personne ne comprend rien. Donc, autant y aller maintenant. On n'a plus les moyens de financer ce genre de choses. Vous savez, il y a eu une période où on créait des établissements publics ou des commissions pour faire plaisir à un tel ou un tel élu ou à une telle ou une telle sensibilité politique. On n'a plus le luxe de faire ça. Maintenant, il faut qu'on soit pragmatique, qu'on baisse nos dépenses publiques et surtout qu'on soit efficace.
Alors, comment est-ce que vous allez procéder ? Parce que déjà, pour l'adoption ou pour l'arrêt de ce plan, ça se fait dans un gouvernement collégial au sein duquel on sait il y a quand même un certain nombre de tensions, même si ça va plus ou moins bien.
Non, ça se passe bien.
Ça se passe bien. Tous les groupes politiques représentés, enfin, qui siègent au sein du gouvernement, approuvent cette démarche, approuvent cette manière de procéder.
Oui, tout le monde participe. Tout le monde participe à ça et avec un esprit qui est plutôt bien. Oui, il y a des tensions. Enfin, je suis venu sur votre antenne pour dire ce que je pensais des voyages de Michael Forest, de mon collègue. J'ai eu l'occasion de lui dire en réunion directement, ainsi que d'autres collègues. Ça se passe pas tous les jours bien avec Gilbert Thuillier, non plus. Mais néanmoins, enfin, on n'a pas d'autre choix que de travailler ensemble sur cette partie-là. Enfin, comptez sur moi pour dire quand je ne suis pas d'accord. Mais je salue le fait que le président du gouvernement a pris en main ce plan. On travaille bien ensemble et je pense que sur ce plan de sauvegarde, de refondation, de reconstruction, ce qui va être extrêmement important, c'est bien entendu ce qu'il y a dans ce plan, et enfin, il va pas falloir faire de l'eau tiède, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des vraies mesures, des vraies réformes et une vraie projection de la Nouvelle-Calédonie. Mais la forme est aussi importante, c'est-à-dire de montrer que des non-indépendantistes et des indépendantistes sont en capacité de travailler ensemble sur un projet commun pour l'intérêt de la population. Je pense que le message envoyé est également important pour un retour à la confiance locale.
Et alors après, vous allez le décliner comment ? Une fois que le gouvernement est d'accord, il faut avoir l'accord ou la coopération, la collaboration des élus du Congrès, de la société civile et même de la population calédonienne, c'est un peu l'objectif.
C'est totalement l'objectif. On a mené en place des discussions, c'est-à-dire que là, le gouvernement est en train de préparer sa feuille de route qui va confronter à celle des élus du Congrès, à celle de la société civile qui travaille ardemment dessus, donc les syndicats de salariés, les représentants des entreprises, parce que ce plan, il ne doit pas être simplement fait par des politiques pour des politiques, il doit être fait par les Calédoniens pour la Nouvelle-Calédonie. Et ça implique un travail en commun du monde politique et de la société civile pour se projeter sur un modèle de plus long terme.
Vous leur avez transmis déjà, ils travaillent dessus déjà.
Oui, ils doivent rendre d'ici la fin de semaine, enfin aujourd'hui, leur rendu. On fera une mise en commun la semaine prochaine des différentes actions. L'idée d'arriver à une conférence courant du mois d'octobre de validation, parce que c'est pas une conférence où on va faire du blabla, désolé pour ce terme, mais vraiment qu'on puisse acter un certain nombre de mesures, ensuite qui vont se phaser. C'est bien entendu, on ne pourra pas faire tout de suite, mais on prendra les mesures de sauvegarde complémentaires, on posera les principes de la refondation et on commencera la reconstruction. Vous savez, sur la question de la reconstruction, mesure déjà très simple, aujourd'hui, les indemnités d'assurance pour les entreprises sont taxées. C'est-à-dire que les entreprises qui reçoivent des indemnités suite à un sinistre paieront de l'impôt dessus. Moi, je suis favorable à ce qu'on exonère d'impôt les entreprises qui souhaitent reconstruire. Celles qui ne souhaitent pas reconstruire, normal que ça soit taxé. Mais par contre, celles qui souhaitent reconstruire, c'est normal aussi qu'elles puissent être exonérées de toutes ces charges.
La population également, vous voulez l'associer ?
On a un questionnaire en ligne sur le site du gouvernement qu'on va certainement prolonger. Enfin, on est à plusieurs milliers de personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Donc ça montre que ça intéresse, ça montre que les gens souhaitent donner leur avis. Et vous savez, j'essaie aussi de faire un exercice d'aller voir des chefs d'entreprise, d'aller voir de la population pour échanger directement sur ces attentes. Et hier, j'étais reçu par les élèves de l'EGC et des élèves des BTS de la CCI pour qu'eux aussi contribuent et me disent qu'est-ce qui leur donne envie de rester en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'ils ont envie de rester en Nouvelle-Calédonie ? Qu'est-ce qu'ils attendent de ce plan de refondation et de reconstruction ? Et quand vous sortez là et qu'il y a 99% des élèves qui vous disent « ici, c'est chez nous » et on va se battre pour reconstruire, bah, ça donne beaucoup plus d'énergie que toutes les réunions qu'on peut faire au gouvernement et ça donne beaucoup plus d'espoir. Parce que cette terre elle a été profondément blessée dans son âme avec ce qui s'est passé, mais cette terre, on l'aime, et on va donner toute notre énergie aujourd'hui pour la reconstruire.
Le nickel, est-ce qu'il est pris en compte dans ce plan de sauvegarde, reconstruction, refondation? Dans quelle case d'ailleurs, et comment, est-ce qu'il est encore envisageable de sauver les usines de nickel de Nouvelle-Calédonie?
Oui, le nickel est pris en compte. La partie filière d'avenir, diversification économique, est également pris en compte. C'est-à-dire que on voit la sensibilité de la Nouvelle-Calédonie à avoir un peu une mono-grosse industrie et 90% de ses exportations qui sont liées au nickel. Mais le nickel, c'est essentiel pour la Nouvelle-Calédonie. C'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je souhaiterais que les trois puissent être sauvés. C'est compliqué pour KNS en ce moment, et je vais une pensée pour tous les salariés. Mais là aussi, il faut qu'on réforme notre système. Il y avait des choses dans le pacte nickel qu'il faut reprendre. La question de la gouvernance du secteur nickel, d'avoir une politique Nouvelle-Calédonie sur ce sujet, et de la visibilité, c'est important. Redonner de la compétitivité, notamment sur le secteur de l'énergie, c'est aussi essentiel. Et surtout qu'on leur permette de travailler, qu'on débloque les mines.
Paradoxalement, on n'a pas trouvé avant le 13 mai, il n'y avait pas de majorité sur un certain nombre de sujets. Est-ce que le traumatisme du 13 mai, à votre avis, va permettre finalement de ramener un certain nombre de gens à la raison, ou enfin de travailler ensemble, de travailler ensemble.
J'ai discuté avec des rouleurs de Thiot pas plus tard qu'hier, qui sont en train de fermer leur société. C'est des gens qui sont indépendantistes, non indépendantistes, et qui sont en train de perdre leur emploi parce qu'ils ont des traites sur leur camion et parce qu'ils font plus de roulage à Thiot. Je pense qu'il y a un moment, il faut que chacun se rende compte de l'impact sociétal, social et économique que ça peut avoir sur la côte Est, sur un certain nombre de zones. Il y a un principe de réalité qui, j'espère, va toucher par de la grâce certains élus qui étaient contre à un moment. Mais on n'a pas d'autre choix que d'avancer sur la question nickel si on veut sauver nos usines. Mais déjà laissons-les travailler. Laissons-les travailler et ça permettra de contribuer à ça.
Alors, le gouvernement met donc sur la table le PS2R. Vous avez commencé à travailler, à commencer la concertation. Parallèlement, le Congrès a adopté la semaine dernière un plan quinquennal. Ça n'a aucun rapport, c'est pas du tout la même démarche, c'est pas le même état d'esprit.
Non, c'est une proposition du Congrès, par un groupe politique qui a été repris par l'ensemble des élus. C'est une démarche qui est complémentaire, qui permet de demander à l'État un certain nombre d'aides, comme on le fait régulièrement tous les jours au niveau du gouvernement. Je crois que montrer qu'il y a une unité du Congrès pour avancer ensemble sur cette reconstruction, c'est une bonne chose, mais ça reste une contribution du Congrès.
Plus de 4,2 milliards d'euros qui sont demandés, c'est réaliste.
C'est réaliste, il y a des réformes. C'est-à-dire que l'État n'accompagnera pas la Nouvelle-Calédonie si la Calédonie ne se réforme pas. Et nous devons nous réformer, je l'ai dit, il faut qu'on baisse nos dépenses publiques. Il faut qu'on a trop d'institutions en Nouvelle-Calédonie, trop d'établissements. On a trop de frais qui sont pas les bons. Donc oui, l'État accompagnera. Peut-être, je ne sais pas si c'est 4 milliards d'euros. Ensuite, on peut toujours demander. Mais si on ne se réforme pas, il n'accompagnera pas. Et donc ça, il ne faut pas mentir aux gens.
Alors, et maintenant, comment ça se passe au gouvernement? Alors, on en parlait, vous dites, oh, ça va pas mal, même s'il y a des petites tensions quand même, notamment avec les membres UC. Et puis, il y a eu la démission de Vaïma Mouliava, qui est retournée siéger au Congrès. Est-ce qu'on sait qui va le remplacer? Parce que là aussi, ça n'avait pas l'air évident, et depuis 8-9 jours qu'il a démissionné, il n'est toujours pas remplacé, là.
Il semblerait que des bruits de couloir, que ce soit Laurie Oumouni qui monte au gouvernement, mais...
Ça
déclenche pas un grand enthousiasme de ma part. Je laisserai les autres membres du gouvernement s'exprimer, mais il va falloir que Mme Oumouni comprenne comment fonctionne le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qu'elle prenne la mesure des responsabilités qui sont les siennes quand on devient membre du gouvernement. On n'est plus un militant politique, on est membre du gouvernement. On a des choses à gérer.
Secrétaire général du RDO, qui était ces derniers temps porte-parole du FLNCS.
Oui, et qui a expliqué que Christian Théin était un homme de paix et qui voulait la paix dans le monde. Je crois qu'il va falloir que Mme Oumouni revienne un peu à la raison.
Mais est-ce que, même si c'est sa responsabilité à lui, Vaïma Mouliava a eu raison, selon vous, de quitter le gouvernement, ceux qui étaient très impliqués dans beaucoup de dossiers, pour permettre le remplacement de Rocco Mitterrand?
tout ce qui permet de sortir Roch Wamitan de la présidence du Congrès est une bonne chose.
Donc vous l'y avez encouragé ?
Il ne m'a pas demandé mon avis, mais s'il me l'avait demandé, je lui aurais dit que c'était une bonne idée.
Alors à la suite de sa démission et de la défaite de Roch Wamitan à présidence du Congrès, il y a eu des rumeurs de chute possible du gouvernement. Est-ce que c'est confirmé ? Est-ce que le gouvernement est consolidé ? Ou est-ce qu'il y a toujours un risque que le 17e gouvernement chute ?
Je pense qu'il faut de la stabilité en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a aucun intérêt à ce que le gouvernement chute pour le moment. Vous savez, il faut qu'on signe dans les 15 prochains jours des conventions pour assurer le financement du RUAM, du chômage partiel. Donc je sais que certains ont eu peut-être des velléités à faire tomber le gouvernement, plus du côté indépendantiste que de notre côté. Mais je crois que la raison est revenue et qu'on a tous intérêt à travailler ensemble pour le bien des Calédoniens, qui ont déjà assez souffert.
Alors c'est un gouvernement qui, paradoxalement, parce qu'au début, il a mis longtemps à se mettre en place, et puis il a souvent été un peu fragile. Il semblerait qu'il va battre des records de longévité, pratiquement, notamment parce qu'on peut penser que dans le stade actuel, si vous dites qu'on a besoin de stabilité, il ne va pas être changé avant les prochaines élections provinciales.
Oui, mais on ne sait pas encore quand seront les prochaines élections provinciales.
Voilà. Donc, avant le 15 décembre, c'est dans quelques mois.
Avant le 15 décembre, ça serait une folie. Enfin, ça serait une folie pour plusieurs raisons. Matériellement, on n'a pas le temps de s'organiser pour organiser des élections d'ici la fin de l'année. L'urgence, elle est surtout à préserver les entreprises, à préserver les emplois, à préserver les associations, à préserver la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, plutôt que d'aller faire campagne. Et vous savez très bien que quand on fait campagne, on n'a pas la responsabilité que quand on n'est pas hors campagne. Donc, je pense qu'un des premiers sujets de Michel Barnier sera de confirmer que les élections auront lieu l'année prochaine et qu'on nous laisse un peu de temps, pour stabiliser. Vraiment, le temps n'est pas aux campagnes électorales. Le temps est à sauvegarder la Nouvelle-Calédonie, à la refonder, à la reconstruire, et on organisera des élections l'année prochaine.
Ah, pour l'instant, il n'y a pas consensus encore sur ce point, parce que le congrès du FLNKS, certains disent pseudo-congrès, en tout cas le congrès qui s'est réuni le week-end dernier, semblait vouloir maintenir les élections avant la fin de l'année. Donc ça va être encore un objet de discussion, de polémique.
Je pense qu'il faut que chacun s'exprime clairement. Enfin, j'ai entendu du côté non indépendantiste, j'ai entendu tout le monde dire que c'était une bonne idée de décaler. J'avais entendu le président de l'éveil océanien également dire qu'il fallait de la stabilité. Je crois que le Palika est aussi dans cette optique, mais je les laisse s'exprimer. Je suis pas porte-parole du Palika. Et l'UC, quand on connaîtra la vraie avis de l'UC, voilà.
Justement, qu'est-ce que vous retenez du congrès du FLNKS ? Il a beaucoup fait parler. Alors, il y a bien sûr la nomination de Christian Théin à la présidence. Il y a peut-être surtout l'absence du Palika et de l'UPM. Qu'est-ce que ça peut donner, tout ça ? Quelle analyse vous faites la situation du camp indépendantiste ?
Qui sont extrêmement divisés, mais je pense qu'on n'a pas de leçon à donner. On a été, nous aussi, extrêmement divisés. Et je reviens juste sur la nomination de Christian Théin. Enfin, l'UC est en perdition. Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui sont responsables à l'UC. Il faut qu'ils reprennent leurs responsabilités sur le parti qui est le plus vieux parti de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on a besoin d'interlocuteurs qui sont fiables et stables. On ne leur demande pas de plus être indépendantistes. On sait très bien que l'UC et le Palika sont des partis indépendantistes. Mais pour l'intérêt de la population, il faut qu'on soit en capacité de discuter ensemble et pas avec des gens qui ont organisé des incendies d'entreprises, qui ont contribué à menacer des gens. Enfin, ces gens-là, ils n'ont pas leur place à la table des discussions. Leur place, elle est en prison, ce qui est le cas. Mais je crois que le Palika a des déclarations qui sont responsables. C'est pas pour autant qu'ils sont moins indépendantistes. Mais il faut que... Vous savez, je suis pas pour la division du FLNKS. Il faut juste qu'on ait un FLNKS qui revienne à de la mesure et surtout à de la responsabilité pour qu'on puisse projeter la Nouvelle-Calédonie.
Mais depuis 8 jours, on a l'impression que... Est-ce que le FLNKS existe encore ? Est-ce qu'il a implosé? Est-ce qu'il y a deux FLNKS? Et est-ce que ça va pas quand même compliquer les choses?
Oui, clairement, ça complique les choses. Ça complique les choses de ne pas avoir des interlocuteurs qui sont unis pour discuter. Parce que si on doit discuter un coup avec le Palika, un coup avec l'UC, enfin l'UC qui veut pas discuter, ensuite, ça ne m'appartient pas de dire qu'est-ce que doit être le FLNKS ou qu'est-ce que doit pas être le FLNKS. Nous, on veut avoir en face de nous des indépendantistes qui sont responsables et qui sont ouverts au dialogue. Il y en a aujourd'hui des deux côtés, sauf qu'au sein de l'UC, ils ne se font pas assez entendre.
Vous croyez une reprise des discussions à Paris à la fin du mois ou en début octobre, comme le président de la République semble l'avoir confirmé? Enfin, on a l'intention, il l'a confirmé à Sonia Backès.
Oui, il le faut. Enfin, il le faut. Il faut qu'on se remette autour de la table. Je considère que la démarche qu'on mène au niveau du gouvernement sur la sauvegarde, la refondation et la reconstruction, où on travaille ensemble indépendantistes, non-indépendantistes et tous les indépendantistes et tous les non-indépendantistes, peut permettre à cette reprise du dialogue sur des sujets qui sont moins clivants. Mais enfin, on vit tous sur cette terre, on vit de manière différentes pour les uns pour les autres, mais je pense que les personnes aujourd'hui se posent pas la question comment on doit discuter. On doit discuter, c'est tout.
Et sur quoi est-ce qu'on discute? Est-ce que dans un premier temps il faut vraiment se consacrer à la reconstruction, à la refondation, ou est-ce qu'il faut chercher un accord global, ou est-ce que c'est trop tôt, que c'est pas le moment?
Je pense que l'urgence, c'est de garantir un salaire à la fin du mois aux Calédoniens. Ça, c'est vraiment l'urgence absolue. Néanmoins, il faut parler de l'avenir institutionnel, mais de quel projet on a pour la Nouvelle-Calédonie, comment on construit ensemble la Nouvelle-Calédonie, c'est quoi notre objectif commun? Est-ce qu'on a un objectif commun sur cette terre? Peut-être commencer par des sujets qui sont moins clivants, mais la reprise des discussions, elle doit se faire, je ne sais pas si elle doit se faire à Paris, si elle doit se faire ici, si elle doit se faire dans le cadre du plan de sauvegarde, de refondation, de reconstruction, mais toutes les discussions permettront de redonner confiance aux Calédoniens, et je suis convaincu que des deux côtés, il y a de la bonne volonté pour le reprendre.
Vous parliez des divisions du FLNKS en disant que vous n'aviez pas de leçons à donner. Les partisans de la France en sont où? Il semblerait que vous cherchiez une unité, voire que vous y soyez arrivé. Il y a eu des réunions communes aujourd'hui de plusieurs partis qui, ces derniers temps, étaient un peu en froid ou ne se parlaient plus.
Oui, il y a eu une réunion commune des non-indépendantistes hors Calédonie ensemble pour le moment. On en a une nouvelle lundi après-midi, lundi prochain. Enfin, cette unité, tout le monde la souhaite, je pense. Tout le monde la souhaite. Il y a eu des déclarations de Nicolas Metzdorf, de Sonia Backès, de Georges Naturel, de Johan Lecourieux, d'Isabelle Chamorro, de moi-même, de Philippe Dunoyer même, au moment de l'élection de la présidence du Congrès. Enfin, on n'a plus le droit de jouer, en fait. Oui, il y a des gens qui ne s'aiment pas dans le camp non-indépendantiste, mais on n'est pas obligé d'être tous amis, on n'est pas obligé de passer nos week-ends ensemble, on n'est pas obligé de passer nos vacances ensemble, mais clairement, on a l'impérieuse nécessité de travailler ensemble pour l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, ça implique de mettre nos égos de côté, tout le monde, c'est-à-dire que oui, il y a eu des chamailleries à un moment, mais là, il faut qu'on porte un projet ensemble. Si les non-indépendantistes, enfin en tout cas les partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, ne sont pas en capacité de porter un projet ensemble, qu'est-ce que ça va être pour discuter avec les indépendantistes à un moment? Et je suis convaincu, enfin, et des premières discussions qu'on a, qu'on est en capacité de porter ce projet. Enfin, et un projet ambitieux, un projet de démocratie en Nouvelle-Calédonie, un projet qui favorise la création de richesses, et j'ai confiance dans les uns et dans les autres pour participer à ça.
Certains parlent déjà d'une organisation fédérale, d'un fédéralisme interne comme projet institutionnel. Vous êtes en phase, ou ça vous paraît prématuré de mettre sur la table déjà des institutions?
Non, mais je pense que c'est toujours bien de faire des propositions. Enfin, moi, je salue toujours les gens qui en font, mais pour moi, il y a deux choses qui sont primordiales. C'est un, qu'on parle d'une seule voix du camp non indépendantiste, parce qu'il n'y a rien de pire que Calédonie Ensemble qui va aller porter son projet, Georges Naturel qui va aller porter son projet, Sonia Backès qui va porter son projet, Nicolas Metzdorf qui va porter son projet. Je pense qu'il y a cette volonté qu'on avance ensemble. Et ça, je l'ai vraiment ressenti lors de la dernière réunion qu'on s'est vu tous ensemble. Et ensuite, il y a un deuxième sujet, il ne faut pas qu'on soit déconnecté de ce qu'attendent aussi les Calédoniens. Les Calédoniens, ils attendent d'un projet qui leur garantisse la sécurité, qui leur garantisse un travail sur l'avenir, qui garantisse le fait de pouvoir vivre en Nouvelle-Calédonie et vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, Est-ce que c'est les provinces qui ont plus de compétences, le gouvernement qui a plus de compétences? On va travailler sur tout ça, mais oui, les provinces doivent continuer à avoir un rôle important pour la Nouvelle-Calédonie, et je crois que la proposition doit être discutée, améliorée, et qu'on puisse avancer.
Beaucoup, beaucoup de travail, manifestement. Merci, Christopher Gégès, de nous en parler.
Merci à vous.
La fin de ce magazine Transparence.